Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain en compagnie aujourd'hui de Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour Sébastien.
Alors nous avions brossé à grands traits l'an dernier avec toi le gardiage de Toulouse. Donc une évocation du territoire sous l'Ancien Régime. On va revenir à cette période de l'Ancien Régime, on va beaucoup y revenir pendant toute cette année. Notamment, on a commencé avec l'évocation de Madame de Cassan. On a commencé par la fin de la période d'Ancien Régime, et en compagnie de Guillaume Debat dans des chroniques précédentes. Et on va continuer en alternant avec toi sur un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, et puis avec d'autres auteurs qui écrivent aux éditions Midi-Pyrénéennes toute une série de petits focus sur des dates de l'histoire de la ville de Toulouse et de quelques-uns de ses personnages ou événements. Alors, on va démarrer toute une série d'entretiens avec toi, Michel, autour des demeures patriciennes et donc des familles qui occupent ces demeures et qui structurent la ville et puis le territoire aussi environnement de Toulouse. Alors, de quoi s'agit-il en un mot quand on dit demeure patricienne ?
Ou patrimoine patricien, pour être plus large que les simples hôtels particuliers ou les châteaux dans les environs de la ville de Toulouse. Donc patrimoine patricien fait référence explicitement, le patricien vient de je ne dirais pas en latin, mais fait référence directement à ces nobles romains de la Rome romaine, hein, on est d'accord, oui. Il y a 2000 ans et plus, mais qui tenait un peu senatus populusque, la vie politique de Rome au moment de son plus haut, de sa période faste. Et donc, ça a toujours été dans nos contrées méridionales, certainement au-delà, mais déjà Toulouse et autour, une référence qui a guidé tous ceux qui ont, un peu de près ou de loin, ou peu ou prou, dirigé la cité comtoise, c'est-à-dire la cité des comtes de Toulouse, et surtout après, donc à partir de la Renaissance, c'est va être le début de notre période d'étude, jusqu'après la Révolution, parce que ça ne s'est pas arrêté net avec le changement de régime.
Alors la Renaissance, on peut donner une période plus qu'une date, hein.
Oui, c'est en fait les bornes de notre grande fresque vont du début XVIe siècle jusqu'au début du XIXe, donc on est quand même sur trois siècles bien remplis, mais il y a évidemment des préliminaires à cette histoire dès la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire au courant des années 1400. Oui, oui, on va en parler.
Alors ces familles patriciennes, elles font partie des élites politique, économique, culturelle de la ville, elles sont repérables à quel signe de richesse, oui. À quel signe de pouvoir.
Alors, ce n'est pas la toge des Romains.
Ouais.
il faut se représenter. Alors, nous n'avons aucune prétention d'historien dans cette chronique du Pays Toulousain. D'ailleurs, on ne cessera, si l'occasion s'en présentera, de faire référence à l'excellentissime revue de l'AOTA, très facile à trouver les numéros et surtout les sommaires depuis la création, depuis 1904, sur le site gallica.fr. Je ne fais pas de publicité parce que ça
pas
appartient à tout le monde. Voilà. Donc ceci étant dit.
Et la revue Lauta qu'il faut préciser, la revue d'érudition de l'association des Toulousains de Toulouse.
Oui, Cap Cadomès.
Si.
Voilà. Donc cet outil et bien d'autres parce que les sources abondent. Ouais. Mais dans le cas de nos chroniques qui sont quand même très généraliste, l'intérêt c'est en fait d'amener nos auditeurs et ceux qui seront intéressés par ce que nous allons raconter, d'en savoir un petit peu plus sur ces trois siècles, un peu plus avant, un peu plus après, qui ont façonné vraiment l'image, j'allais dire même qui ont contribué au rayonnement de Toulouse et de sa région, du pays toulousain.
On a une idée de, j'allais dire démographiquement, de cet effectif, de son poids numérique dans la population de la ville sur 2-3 siècles.
Dès qu'on évoque des élites, alors je n'ai pas de statistiques à donner, mais on est toujours sur un petit pourcentage, voire
ouais.
1%.
Ouais.
C'est-à-dire que la masse des personnes, comme toi et moi, j'allais dire, et nos auditeurs, sont occupés par les travaux des champs, pour subsister, pour essayer d'avoir des revenus. Et les plus malins d'entre eux, d'entre nous, je dirais, ont fait fortune petit à petit, si ce n'était pas eux, c'était leur descendance, en prêtant, en jouant les financiers, puisque le système bancaire n'existait pas. Et les marchands, donc c'est une des composantes de cette élite dont nous allons parler, de cette élite patricienne, les marchands ont joué un rôle considérable dès le Moyen-Âge, dès le 12e, 13e siècle, en dehors des troubles, évidemment, de l'époque.
Parce que l'idéal est d'acquérir la noblesse. Et donc, quand on commence à avoir de la fortune, on peut peut-être acheter des charges qui vont permettre de prétendre à avoir cette reconnaissance.
Effectivement, on est dans
une dynamique.
Une dynamique tout à fait financière à la base. C'est-à-dire que tous ces personnages un peu plus malins, un peu plus avisés, habiles que la moyenne, qui achètent des terres, qui achètent des métairies, savent très bien que par le service du comte, dans un premier temps, le comte de Toulouse, jusqu'en 1271, puis le roi de France et toutes ses délégations dans les provinces, le service du roi va permettre de s'élever, c'est ce que tu viens d'évoquer, une sorte d'ascenseur social pour arriver à la noblesse. Et la noblesse, c'est le Graal, c'est vraiment le but à atteindre, parce qu'elle a des signes de noblesse. Et ces signes de noblesse passent par la possession de terres nobles, d'édifices, de tout temps, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, on montre par une belle maison, un bel édifice, une tour, c'est le cas des tours capitulaires à Toulouse, et d'autres signes dont on va peut-être parler plus tard.
Et on est dans une période où la fonction publique telle qu'on la connaît n'existe pas, mais ce sont des charges qui s'achètent, et certaines sont récompensées, le service rendu au roi est récompensé, par un titre nobiliaire,
C'est exactement ça, avec des abus. C'est-à-dire, il est impossible pour les conditions de l'époque, de transport, de contrôle, etc. C'est tout à fait illusoire de penser qu'il n'y a pas d'abus. En revanche, les charges, la vénalité des charges, on parle de ça de manière très ouverte à la fin du XVIe siècle, a été permis, si tu veux, par le roi de France, justement pour s'attirer des personnes... cultivés, éduqués, formés dans les bonnes... À l'époque, c'est surtout par l'Église, le clergé, et qui, mais aussi, ont, à la faveur de la Réforme, ont fait des voyages en Europe, principalement en Italie, et ont rapporté des modèles, à la fois des modèles architecturaux, mais aussi décoratifs, mais surtout des modèles intellectuels. Mmh. Et donc, je confirme ce que tu viens de dire, l'obsession pour tous ces personnages qui se sont enrichis est d'avoir une occupation au service du roi, et principalement, en tout cas en Languedoc, puisque c'est le deuxième parlement, c'est là où je voulais en venir, qui a été créé après celui de Paris, qui était l'instance politique, judiciaire et fiscale pour tout le nord de la France, eh bien Toulouse est le deuxième parlement créé au XVe siècle, dans les années 1440, et qui devient le deuxième parlement de France, prend en importance et surtout en étendue au XVIIe. Alors quand on dit parlement, c'est pas uniquement des parlementaires, ce sont pas uniquement des messieurs
qui viennent débattre de la loi.
Voilà, c'est beaucoup de personnages. On dirait une nébuleuse, pour faire court, qui gravite autour de ce Parlement. Les conseillers eux-mêmes ne sont pas très nombreux, ils sont moins d'une centaine à la fin du XVIIIe siècle, donc encore moins au XVIIe. Les principaux occupent des charges de président.
Président à mortier.
Voilà, avec un très beau bonnet. Ouais. On se représente, là, pour ceux qui connaissent le manuscrit d'Hilaire Pader, donc ils sont à peu près tous représentés dans les années 1630, sous Louis XIII. Et on a une belle galerie de portraits de ces personnages. Mais ils gravitent donc autour de ce Parlement pour le faire fonctionner, pour tout simplement administrer la province, des procureurs, des officiers, voilà.
Des avocats.
Des avocats, bien sûr. Oui. Et tous les financiers, c'est-à-dire tous ceux qui prêtent, qui jouent le jeu de financer les immenses besoins du royaume, et notamment des guerres du roi. Donc voilà, toute cette, on a un peu dessiné la population, et il faut avoir en tête que, on parle de messieurs, mais il y a beaucoup de personnages féminins qui jouent un rôle important, et j'espère que dans les prochaines chroniques, nous pourrons donner des exemples, parfois cocasses, parfois terribles, parfois tragiques, mais aussi de grande valeur de personnages, autant masculins que féminins, qui ont joué un rôle dans le patrimoine, et surtout par la transmission, parce qu'on l'a oublié, mais la stratégie matrimoniale, oui. C'est-à-dire épouser une telle parce que c'est une descendante ou une fille, tout simplement, de personnages haut placés, eh ben, ça fait partie de l'ascenseur social.
On est bien dans des idées de dynamique, oui, exactement.
Voilà. Et on verra comment ça se traduit sur le plan architectural et artistique.
Et à travers donc un certain nombre de familles qu'on n'a pas énumérées là, mais on va commencer la fois prochaine avec une famille en particulier. Et donc ces familles ont des possessions dans la ville, des possessions en dehors de la ville, possessions matérielles, agricoles, parce qu'il faut des revenus.
Voilà. Et des droits seigneuriaux.
Et des droits seigneuriaux, voilà.
Montrer qu'on a du pouvoir et qu'on sait s'en servir.
Exactement.
Bon, tout en étant au service du roi.
Eh bien, on aura l'occasion d'évoquer ce qu'on appelle aussi les savonnettes à vilains, ces acquisitions de charges nobilières pour justement se laver de la souillure noble, la souillure plutôt non noble
ignoble.
Exactement, la souillure ignoble qui nous rend nobles.
Comme quoi, voilà. les mots ont leur importance.
Exactement, voilà. C'est des expressions d'Ancien Régime qui sont un peu discriminante et en même temps pleine de charme aujourd'hui avec le recul. Voilà. On finit là-dessus. Merci Michel et bonne semaine à tous.
Bonne semaine à tous.